Amakadi, sur Sandy. Vous savez que tous les lundis, nous abordons un sujet en rapport avec la chronique Avocats sans frontières. Nous parlons des questions concernant le droit congolais. Aujourd'hui, nous allons savoir que prévoit la loi sur la culture et la commercialisation des chanvres en République démocratique du Congo. Nous partons d'un exemple précis, notamment à Matadi. Vous savez que dans le Bas-Congo, les éléments de la police nationale du district du Bas-Fleuve ont découvert le lundi dernier 200 de chanvres indiens dans le territoire de Tchela, 210 km de Matadi. Une pratique décriée non seulement par les responsables de la police nationale congolaise, ainsi que la société civile de Tchela, mais aussi par la législation congolaise. Retenez que selon cette dernière, la culture et la vente des chanvres en RDC est strictement prohibée. Pourtant, plus d'une personne ne se livre à cette pratique. Vu cette situation, les gens s'interrogent. Quelles sont finalement les amendes prévues pour les récalcitrants? Que prévoit la législation congolaise sur la culture et la commercialisation des chanvres en RDC? Nous en parlons aujourd'hui avec M. Pinimoki en tant que président de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Nous aurons également Maître Dominique Kamwando de l'ONG Avocats sans frontières qui va nous rejoindre. Mais d'abord, avec vous, Guy Roger Niampala, le point. Comment est-ce que les autorités de Tchela ont pu découvrir le sang de chanvre indien dans cette partie de la province du Bas-Congo? Guy Roger Niampala sera là justement dans quelques instants afin de nous éclairer sur cette question. Mais retenez que vous avez la possibilité, vous aussi, de nous éclairer, auditeurs de Radio Capi, en réagissant déjà, maintenant avec vos SMS, au 081 070 2050. Nous savons que cette pratique, c'est vrai qu'elle est décriée, mais il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à la commercialisation du chanvre, raison pour laquelle nous en parlons. Vous souhaitez réagir là-dessus? Faites-le déjà maintenant, informez-nous, afin qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions. Mais d'abord, on va suivre Guy Roger, qui nous fait le point de la situation dans le Bas-Congo. Alors, Guy Roger, puisque vous êtes là maintenant, comment est-ce que les autorités de Tchela ont pu découvrir le sang de chanvre indien dans cette partie de la province du Bas-Congo, Guy Roger?
Nicole, d'après le commandant de la police de Tchela, ces éléments se sont fait passer pour des acheteurs de chanvre. Ils se sont donc infiltrés dans les milieux de dealers et des cultivateurs. Après avoir visité le champ, ils se sont donné rendez-vous le 20 octobre dernier avec les propriétaires pour justement conclure l'affaire. Et le jour convenu, la police, est descendue sur place. Ces personnes ont été arrêtées et transférées devant les juridictions compétentes.
Mais quelle a été la suite de l'affaire? Parce que dans bien des cas, lorsqu'il y a arrestation, on ne connaît pas la suite, hein.
Oui, Nicole, en fait, les propriétaires de ces champs, comme je l'ai dit, ils ont été arrêtés et transférés en prison. L'un d'entre eux a pris fuite dans un hôpital où il recevait des soins. Quant au champ de ce chanvre indien, ils ont été clairement brûlés en public.
Il y en a déjà un qui a disparu parmi les personnes qu'on aurait arrêtées. Est-ce qu'on peut connaître le nombre des gens qu'on a arrêtés dans le Bas-Congo?
Oui, Nicole, bon, en fait, les nombres des gens arrêtés, là, je parle plus de Tchela, hein, oui. je parle de Tchela, oui. Mais le nombre exact, nous n'avons pas pu avoir des nombres exacts dans le Bas-Congo dans son ensemble, mais du moins à Tchela, environ 5 ou 6 personnes ont été arrêtées à ce sujet.
Oui, dont un déjà a pris la poudre des scompettes. Alors, comment est-ce que la population a accueilli cette affaire? Comment est-ce qu'elle a interprété en fait cette affaire de chanvre à Tchela?
Valentin Vangui, lui, il est membre de la société civile de Tchela que nous avons pu interroger. Lui, il a salué en fait l'action, il parlait au nom de la population de Tchela, il a salué l'action, mais il a déploré le fait que les autorités locales de Tchela savaient qu'il y avait des champs du chanvre indien dans la contrée. Mais malheureusement, selon lui, il a déploré le fait qu'ils n'ont pas eu le courage ou la volonté de dénoncer cette pratique.
Alors parlons de Matadi où vous vous trouvez en ce moment, Guy Roger, cette affaire de vente, de commercialisation et de culture du chanvre, est-ce que c'est une affaire connue par les autorités sur place?
En fait, nous avons échangé sur la question avec le maire de la ville de Matadi, Jean-Marc Zeidio, qui a déclaré, comme dans toutes les grandes villes du pays, la ville de Matadi n'est pas exclue à ce genre de pratiques. Selon lui, des efforts sont en train d'être faits pour combattre ces pratiques réprimées par la loi. Cependant, selon lui, la peine qu'a prévue le législateur en cette matière est trop faible. Il propose par contre d'autres pistes de solutions. On l'écoute.
C'est un problème qui ne concerne pas seulement les Bakoumou, mais c'est un problème qui est général. Pour assurer le sens, nous, ici, dans la ville de Matadi, oui, il y a l'existence, n'est-ce pas, de cette culture, mais nous avons mis sur pied un grand mécanisme tendant à lutter contre ce phénomène. Donc, pratiquement, les fumoirs qui sont à travers les communes, les Bakoumou sont des instructions permanentes, nos services de sécurité ont aussi les mêmes instructions pour non seulement décourager, mais pratiquement anéantir, même quoi que. Et ce qui est important, c'est peut-être que le gouvernement provincial doit lutter pour mettre un terme à la culture. Cette culture, pas à Matadi, c'est cultivé ailleurs. Donc, je crois que les efforts sont fournis pour arriver à anéantir cette culture, puisque c'est la jeunesse qui est exposée, la plus exposée. Vous savez, la consommation de la drogue, avec tout ce qu'elle peut entraîner comme conséquence, avec le sida, les IST et tout comportement négatif. Donc, bref, à notre niveau, nous sommes en train de lutter, mais je crois que l'apport des ONG nous est aussi utile dans le sens de pouvoir intensifier non seulement la sensibilisation, mais arriver aussi à faire changer les habitudes, de dire que les gens puissent consommer à longueur de journée, n'est-ce pas, des stupéfiants, mais qu'ils sachent que c'est extrêmement dangereux, nous devons éviter cela. Et c'est que nous sommes en train de faire 7 jours d'emprisonnement. Croyez-moi, ce n'est pas que quelqu'un en faisant 7 jours qui peut facilement se corriger, mais si la peine est beaucoup plus rigoureuse, la personne comprendra. Mais néanmoins, les efforts sont faits, et les suggestions, nous les faisons, les propositions très utiles, nous les faisons pour que nous arrivions non seulement à anéantir, non seulement à décourager, mais à changer pratiquement la culture. Hein. Et je crois que ça, c'est possible. Vous, aussi en tant qu'homme de médias, vous avez une grande part de responsabilité à travers la sensibilisation sur, n'est-ce pas, la consommation des drogues, la consommation de tout ce qui est négatif. C'est que cela a comme implication négative dans la société. Donc, c'est un travail qui s'est fait, mais néanmoins, ça doit se faire à tous les niveaux.
Voilà, un grand travail qui devait se faire dans, à tous les niveaux. Ça, c'est le maire de la ville de Matadi, Jean-Marc Ndeidio, qui nous l'a dit. Mais revenons au problème, Guy Roger. Vous avez dit qu'on a arrêté plus ou moins 6 personnes, mais la quantité de stupéfiants produits, vendus, consommés chaque mois ou chaque année, est-ce que vous avez une idée sur les statistiques à ce sujet?
Nicole, les autorités provinciales du Bas-Congo ont fait état de quelques cas isolés, notamment le cas de Tchela, mais on n'a pas pu entrer en possession des chiffres. Bon, nous pensons que le président de la Commission nationale de lutte contre la drogue, M. Pini, qui sera l'un de nos invités, pourra nous en dire plus là-dessus.
Certainement, on va d'ailleurs le recevoir. On va s'arrêter donc là, Guy Roger Niampala. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Hein. Allez, à la prochaine.
Merci Nicolas, à la prochaine.
Pour écouter aujourd'hui la musique d'hier, associer nos oreilles de l'histoire de la musique, revivre des grands moments de la chanson congolaise, retrouver nos héros et chanter avec eux, ouvrons le bal avec la musique des années 50, 60, 70 et 80. Tous les dimanches, de 19h à minuit dans Kinshasa et de 20h à 1h heure de l'Est. Tous les lundis et mardis de 21h à minuit dans le Kinshasa et de 22h à 1h heure de l'Est. Au Capi Retro sur Radio Capi avec DJ David, changer de rythme.
Nous parlons justement de ce qui se passe à Matadi et notamment à Tchela. Nous sommes à Tchela, précisément où nous avons appris dernièrement qu'on a mis la main sur 6 personnes qui sont impliquées dans la pratique de la drogue, dans la vente du chanvre. Alors, nous avons comme invité, pour commencer, M. Pini Moké, en tant que président de la Commission nationale de lutte contre la drogue, et nous rappelons à tous ceux qui souhaitent intervenir à ce sujet, qui n'hésitent vraiment pas à nous appeler, également 081 070 2050 pour les SMS. Si vous souhaitez réagir directement dans Okapi Action, alors là, il faut nous appeler un autre numéro, c'est 081 891 3094. Monsieur Pini Moké, vous êtes notre premier invité pour cette question. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, est-ce que vous êtes informé, pour commencer, qu'on a mis la main sur 6 personnes à Tchela qui étaient impliquées dans la vente du chanvre?
Oui, je viens de suivre cela. C'est une bonne affaire. Il faut encourager ceux qui luttent contre l'abus de trafic illicite de drogue. Et je viens de suivre le maire de la ville de Matadi. Je l'encourage également parce que j'ai toujours dit que la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, c'est une affaire de tout le monde. Et surtout, j'ai toujours voulu que l'autorité politique soit impliquée. Et je crois que c'est une bonne affaire. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment encourageant.
Mais vous n'avez pas été informé directement parce que vous avez quand même un rôle important en tant que président de la Commission nationale de lutte contre la drogue.
Effectivement, vous avez raison. Les gens travaillent un peu en désordre. C'est-à-dire, des cas comme ça, quand ça arrive, il faut que le comité soit informé. Parce que le comité représente le gouvernement. Le gouvernement en matière de lutte contre la drogue.
Mmh.
Et si aujourd'hui on doit faire les statistiques, c'est le comité qui est la voie autorisée au niveau national ou au niveau international.
Mmh.
C'est comme ça des cas pareils, ne fût-ce que par un coup de téléphone, on peut appeler le président pour dire voilà, nous avons mis la main sur des personnes ou bien nous avons détruit autant de champs. Parce que tout ça va montrer au niveau national et international que le gouvernement congolais est en train de faire des efforts pour combattre.
Mais c'est bien hein, qu'on vous contacte directement, mais il faut savoir ce que vous faites concrètement à travers cette Commission nationale de lutte contre la drogue. Quels sont vos, si on doit les appeler, vos prouesses en matière de lutte contre la drogue? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour lutter contre cette vente
illicite de la drogue? La lutte contre la drogue se mène sur quatre axes. Il y a d'abord la prévention, la campagne de sensibilisation, ce que vous êtes en train de faire, d'informer la population.
Mmh.
C'est une bonne affaire. Il faut que la population puisse connaître les conséquences néfastes de la drogue. Et pour cela, il n'y a pas seulement le comité, il y a aussi de la presse, il y a aussi les ONG qui doivent sensibiliser la population. Ça, c'est la première façon de lutter contre la drogue.
Ensuite,
deuxième chose, c'est la répression. C'est-à-dire qu'il faut réprimer ceux qui violent la loi. Les gens qui sont en bonne santé, les gens qui sont là pour trafiquer, qui violent la loi, mais il faut les punir. Hein? C'est ce que nous appelons la répression.
Et
pour cette répression-là, nous sommes bien organisés. Nous avons la police nationale congolaise, la justice militaire, nous avons la police judiciaire de parquet, les magistrats, et ainsi de suite. Donc tous ceux qui sont dans le service répressif font partie du comité interministériel de lutte contre la drogue. Alors, troisième étape de lutte contre la drogue, c'est la désintoxication. C'est-à-dire le traitement des toxicomanes. Vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne peut plus arrêter parce qu'ils sont déjà malades. Hein? Ce sont des personnes qui sont malades.
Mmh.
Donc, si vous les arrêtez, vous les mettez en prison, c'est pour les tuer.
Mmh.
Mais il faut les soigner.
Il faut les soigner.
C'est la désintoxication.
Mmh.
Alors, la dernière étape, c'est la réinsertion sociale. Quelqu'un qui a été désintoxiqué, hein, qui reprend la vie normale, si vous le laissez continuer au chômage, il va rechuter. Il faut lui donner du travail, et c'est surtout le travail manuel.
Mmh.
Voilà les quatre axes ou les quatre étapes qui nous permettent de lutter contre l'abus de drogue.
Oui. Alors, parlons de la désintoxication. On a suivi tout à l'heure Guy Roger Niampala nous a dit qu'il y en avait une des personnes qu'on avait arrêtées hein, dans ce trafic. Il s'est interné à l'hôpital et c'est là aussi qu'il s'est échappé. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que vous également, lorsque vous suivez cette troisième axe, qu'est-ce qui nous garantit que ces gens aussi ne s'échappent pas à la même occasion?
Bon, nous ici, le gouvernement n'a pas encore un centre hospitalier approprié pour la désintoxication, mais par contre, nous sommes en collaboration avec le CNPP. Et avec certains médecins qui sont spécialistes en santé mentale. Nous avons par exemple le docteur Mifundo qui a un centre hospitalier pour désintoxiquer les drogués.
Pour être plus précis, parce que les auditeurs qui vous suivent un peu partout au Congo aimeraient savoir si vous avez déjà mis la main sur quelques personnes impliquées dans la vente de chambre. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce commerce. Est-ce que vous en avez déjà arrêté quelques-uns avec la police, bien sûr?
Oui, nous avons des statistiques. C'est-à-dire, avant 2002, les services n'étaient pas bien organisés. Chacun faisait ses arrestations. Mais actuellement, nous sommes bien organisés. Toutes les statistiques, chaque année, j'ai des statistiques.
Et pour cette année, notamment.
Pour l'année, ici, nous sommes en mois
de septembre.
Je vais vous donner les statistiques jusqu'au mois de septembre. Mais malheureusement, on n'a pas assez de temps parce que j'ai fait ces statistiques par mois. Je n'ai pas encore fait le total parce qu'il faut le faire à la fin de l'année. Mais je peux vous donner 3 ou 4 mois. Pendant le mois de janvier 2008, nous avons arrêté 29 personnes. Et parmi ces personnes, il y a 12 hommes et 11 femmes.
Dans la ville de Kinshasa.
Dans la ville de Kinshasa.
Oui.
Et au mois de février 2008, nous avons arrêté 77 personnes, dont 70 hommes et 7 femmes.
Toujours dans la ville de Kinshasa.
Toujours ville de Kinshasa.
Mm-hmm.
Mois de mars 2008, nous avons interpellé 13 personnes, dont 10 hommes et 3 femmes. Et au mois d'avril 2008, toujours dans la ville de Kinshasa, nous avons interpellé 62 personnes, dont 58 hommes et 4 femmes. Au mois de mai 2008, toujours dans la ville de Kinshasa, nous avons interpellé 65 personnes, dont 58 hommes et 7 femmes. Au mois de juin 2008, nous avons interpellé 110 personnes, dont 94 hommes et 16 femmes. Au mois de juillet 2008, nous avons interpellé 165 personnes, dont 147 hommes et 18 femmes. Au mois d'août 2008, toujours dans la ville de Kinshasa, nous avons interpellé 116 personnes, dont 95 hommes et 21 femmes. Au mois de septembre 2008, nous avons interpellé 65 personnes, dont 58 hommes et 7 femmes.
Alors,
il reste maintenant
le mois d'octobre.
Le mois d'octobre, novembre, décembre, pour faire les bilans.
Mais pour l'instant, juste nous sommes au mois d'octobre, pour l'instant, est-ce que déjà vous avez mis la main sur quelques personnes au mois d'octobre?
Oui, nous avons arrêté plusieurs personnes au mois d'octobre ici, et nous avons saisi également, je ne sais pas si j'avais invité la radio Capi, malheureusement, elle n'était pas là.
Oui.
Nous avons brûlé 300 kilos, incinéré 300 kilos de cannabis. C'est ce que nous appelons une chambre à fumer. Et dans le cadre des crimes organisés, nous avons brûlé quelques produits pharmaceutiques périmés. 15 bouteilles de Majordane qui sont des produits dopants, de faux produits dopants pour les chevaux qui font des compétitions et certains produits impropres à la consommation.
Oui, alors finalement, maître M. Pinimouké, on retient une chose, c'est que vous êtes vraiment bien structuré, mais il y a quand même un problème. Hein. C'est comme si vous êtes plus limité dans la ville de Kinshasa que dans les autres provinces.
Oui, madame, vous avez raison. Pour le moment, nous avons installé déjà une cellule au Kasaï occidental. La cellule de lutte contre la drogue se trouve à Tshikapa. Alors, le problème, c'est quoi? C'est le problème financier. Parce que nous ne pouvons pas installer des cellules à l'intérieur aussi longtemps que nous n'avons pas encore un budget louer les immeubles.
Donc vous voulez dire que depuis que vous êtes opérationnel, depuis que vous êtes responsable de cette commission nationale, c'est une commission nationale, vous devez être appuyé par l'État congolais, n'est-ce pas?
Vous avez raison. Tout au début, je crois, une année ou deux ans, nous avons été au budget annexe. Mais à un moment donné, tout a été supprimé, nous ne savons pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que les autorités commencent à faire un effort pour qu'on puisse
nous allons faire le suivi avec Maître Dominique Amandou, parce que c'est bien d'arrêter ces gens, mais il faut faire le suivi pour voir s'ils sont toujours en prison, qu'est-ce qu'ils risquent, parce que dans bien des cas, on a l'impression que ces gens sont arrêtés, ils sont présentés aux médias et puis après ils sont libérés. On va
prendre vous savez que nous, à notre niveau, quand les inspecteurs de police judiciaire ou les officiers de la police nationale travaillent, c'est-à-dire nous nous arrêtons à l'interrogatoire et à transmettre le prévenu auprès de l'officier du ministère public. Donc c'est à l'officier du ministère public de décider s'il peut condamner, s'il peut envoyer en prison. Parce que nous, notre compétence, c'est juste 48 heures, vous interrogez, les éléments sont là, vous transmettez le prévenu et le dossier, ainsi que la preuve auprès de l'officier du ministère public.
Oui, on va vérifier avec Maître Dominique Amandou, en tant que responsable au niveau de l'ONG Avocats sans frontières. Maître, vous êtes avec nous, monsieur Pimou, qui est resté en ligne, s'il vous plaît.
Merci.
Maître Dominique Amandou, vous êtes maintenant avec nous. Alors, nous avons suivi, il y a beaucoup de cas d'arrestation de toutes ces personnes qui s'adonnent à la culture et à la vente de la drogue. Alors, qu'est-ce qui risque en s'adonnant à la vente et à la pratique de la drogue, Maître Dominique Amandou?
Merci beaucoup, Nicole. Je vais d'abord vous préciser que la matière relative à l'exploitation ou à l'usage des chanvres affirmés ou de la drogue, comme on peut le dire ainsi, est réglementée par la législation congolaise, particulièrement par l'ordonnance loi approuvée par les décrets du 1er mars 1903 qui détermine les mesures contre l'usage du chanvre et le fait de fumer celui-là, de fumer les chanvres. Donc, au regard de ces textes, la culture, la vente, les transports, la détention du chanvre à fumer sont interdits. Et il en est de même de l'usage de ces chanvres. Donc la consommation de chanvre et des autres drogues est interdite par la loi. La personne qui se rend coupable de ces infractions est punissable. La peine peut aller de 15 jours à 1 an de prison, comme on dit, de servitude pénale. Et pour faciliter, pour rendre ces mesures beaucoup plus efficaces, le législateur a responsabilisé les chefs des villages et les autorités territoriales des entités locales. C'est leur responsabilité engagée parce qu'au terme de cette loi, les chefs des villages et les responsables des entités locales où la culture et l'avance du change est constatée, ces personnes sont responsables solidairement avec les personnes condamnées pour tout ce qui est des amendes et des frais qui doivent être payés suivant les jugements prononcés. Cela veut dire que les personnes responsables ou les autorités des entités locales doivent veiller dans leur circonscription pour que la culture et le fait de fumer du chanvre ne soit pas entretenu. Donc ce sont là les termes que prévoit la loi pour pouvoir réglementer cette matière et veiller à ce que ces usages ne puissent pas se propager ou se répandre dans la société avec tous les effets néfastes que cela comporte, surtout pour la jeunesse.
Alors, Maître Dominique, parlons un peu des sanctions. Quelles sont les sanctions que la loi prévoit pour tous ces gens qu'on attrape, par exemple, qui sont en train de cultiver un champ? Par exemple, prenons le cas des Matadi, où on signale l'arrestation des gens qui cultivaient un champ de
près de 6 personnes.
Près de 6 personnes qui ont été arrêtées. Alors, pour ces gens-là, quelle est la sanction que la loi prévoit pour ce genre de paix?
Parce que tout à l'heure, le maire de Matadi nous a parlé de 7 jours d'emprisonnement. Il n'a pas dit 15, mais il a dit 7 jours d'emprisonnement pour risquer ces gens.
En tout cas, l'article 3 de l'ordonnance loi que je viens d'évoquer tout à l'heure parle d'une peine de servitude pénale, c'est-à-dire d'une peine de prison qui peut aller de 15 jours à 1 an. Et non pas 7 jours au regard du texte réglementaire en la matière. Donc la peine que cette personne encourt peut aller de 15 jours à 1 an de prison.
Mais vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est tout le monde qui est informé? Parce que comment expliquer que vous parlez de 15 alors que le maire de Matadi parle de 7 jours, Maître Dominique Commandant?
On dit en droit qu'il n'y a pas de peine sans loi. La peine que je suis en train d'évoquer tout à l'heure ressort de l'article 3 de la loi. Je pense qu'en ce qui concerne l'information, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais aujourd'hui dans l'opinion, les gens savent que l'usage des chanvres à fumer est interdit par la loi. C'est pour cela même que les gens se cachent pour les fumer.
Oui, ils se cachent pour les fumer, mais bon, c'est comme s'il y a une certaine légèreté. On parle même d'une complicité avec ceux qui devraient faire appliquer cette loi. Maître Dominique Amando.
Ce qui est évident, c'est qu'on constate effectivement une légèreté dans les mesures d'encadrement ou dans les mesures de poursuite. On constate même que dès lors que ces personnes sont arrêtées et transmises soit devant l'OPJ ou soit devant le ministère public, dès lors qu'il n'y a pas derrière ces dossiers à une partie civile pour diligenter certaines mesures pour faciliter l'évolution de la procédure, on banalise le fait et on banalise la chose dès lors que personne ne fait plainte, personne ne s'est présenté pour prétendre avoir subi un préjudice. Et même au niveau du traitement des dossiers, on se rend compte qu'il y a une légèreté à cela et que c'est rare de voir qu'on a arrêté les gens, on a instruit les dossiers, on a fait fixer et le tribunal a prononcé une condamnation. Mais dans la plupart des cas, on les arrête, on les amène au parquet. Et puis, les choses se traitent de manière vraiment légère et fantaisiste. Mmh. On exige une caution et puis on remet les gens en liberté.
Une fois de plus.
Les gens reprennent les pratiques interdites par la loi.
Oui, M. Pinuté, d'ailleurs, qui est toujours avec nous, nous l'a dit, hein, à leur niveau, ils se contentent de remettre ces cas-là à l'officier du ministère public. Mais la suite, ça ne les intéresse pas. C'est bien ce que vous nous avez dit, hein, M. Pinuté.
C'est-à-dire... Il y a des cas où il faut peut-être apprécier, proposer une amende transactionnelle. Vous savez, madame, une amende est une peine, c'est une peine. Et il y a des cas où il faut transmettre le dossier pour que l'officier du ministère public décide de l'emprisonnement. Parce que l'OPJ n'a pas qualité de signer un mandat d'arrêt provisoire, n'a pas la qualité de mapper, un provenu. Donc, l'officier de police judiciaire peut proposer une amende transactionnelle. Mais au cas où l'officier du ministère public refuse, à ce moment-là, on reprend le type, il fait la prison.
Oui, parce que si vous ne faites pas un suivi, et que, comme l'a dit Maître Dominique, qu'il y a légèreté dans les procédures, vous avez fait un travail qui finalement n'a servi à rien, parce que la personne se retrouve par rapport en liberté, hein.
Oui, je crois que ce n'est pas l'officier de police judiciaire de suivre le dossier au parquet jusqu'au niveau du tribunal. Parce qu'on sait que l'OMP, l'officier du ministère public, qui a pris le dossier est conscient et c'est un juriste, il sait comment appliquer la loi. Il en est de même que quand le dossier sera fixé au niveau du tribunal. Je crois que, sans ce moment-là, son chef, qui vient immédiatement, qui peut surveiller le dossier au niveau du tribunal, mais ce n'est pas l'officier de police judiciaire, l'OPJ, qui a verbalisé le prévenu sur le dossier, parce qu'on risque de vous prêter de mauvaises intentions, vous avez intérêt.
Oui, mais M. Pinimoké, en fait, ça ne vous est jamais arrivé d'avoir participé, d'avoir contribué à l'arrestation de certaines personnes qui, par après, se retrouvent encore en liberté? Ça ne vous est jamais arrivé?
Si, pas seulement en matière de drogue, même dans d'autres infractions, nous voyons quelqu'un qui est arrêté et après, il est relaxé, ça nous croyons, moi je vois ça très souvent. Parfois, les gens me quittent la prison, disent-moi, monsieur le président, moi j'ai fait deux mois en prison, mais je viens de sortir, je viens vous dire bonjour. Ou parfois, quand on envoie au parquet, une semaine après, il vient vous dire, bon, monsieur, j'étais relaxé, je viens vous dire bonjour, seulement pour vous ridiculiser.
Mais oui,
mais ça arrive.
Mais c'est à vous d'être beaucoup plus vigilant, c'est à vous d'aller jusqu'au bout. Il ne faudrait pas vous arrêter à envoyer ces gens-là au ministère public, et après, vous n'êtes plus concerné.
Bon, madame, je crois que la procédure, procédure doit être respectée. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être, quand nous constatons des cas comme ça, dénoncer cela à l'autorité compétente. D'ailleurs, c'est ça qui nous a poussé très souvent quand nous transmettons un provenant au parquet, nous préférons informer l'autorité supérieure qui sache quand même qu'on a arrêté et qu'on a transmis. Nous transmettons en dehors du dossier. Et de preuve, nous transmettons ce dossier-là par une lettre de transmission. C'est une façon aussi que l'autorité supérieure puisse suivre le dossier. C'est ce que nous faisons.
Oui, Maître Dominique Amando, restez toujours en ligne, hein, M. Pignoquet. Maître Dominique, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait durcir davantage les sanctions? Parce que comment expliquer qu'une personne qu'on arrête aujourd'hui se retrouve par après en liberté, après 7 jours, hein, pas 15 jours, mais 7 jours? Ce n'est pas normal, Maître Dominique Amando. Finalement, la lutte contre la drogue ne s'arrêtera jamais.
Bon, au regard de la loi et des circonstances, certaines procédures peuvent être clôturées par le paiement d'une amende transactionnelle, comme le président d'une amende transactionnelle, le président de la commission l'a dit. Effectivement, le fait de payer une amende, c'est une peine. C'est pour prouver à la personne qu'elle a commis l'infraction et elle doit payer l'amende. Le fait de payer l'amende, c'est le fait d'exécuter la peine. Au niveau du parquet, on peut apprécier, par exemple, de l'inopportunité de poursuite ou de l'opportunité de pouvoir clore l'affaire par le paiement d'une amende transactionnelle. Cela peut se faire aussi bien devant le parquet que devant l'officier de police.
Donc,
au regard du développement du phénomène aujourd'hui, de l'ampleur que cela que ça prend, je pense qu'il va être nécessaire d'être beaucoup plus coercitif, d'être
donc,
beaucoup plus contraignant dans les mesures que l'on prend pour encourager les potentiels exploitants ou les potentiels fumeurs de chambre.
Oui, Maître Dominique, une précision. Donc, aujourd'hui, si on arrête quelqu'un qui est impliqué dans la vente contre la vente de la drogue, en fait, s'il paye l'amende, demain il peut être libéré. Hein. Si on l'arrête aujourd'hui, demain il peut être libéré s'il paye l'amende.
Pour ça que si l'officier du ministère public juge qu'au regard des faits, au regard du dossier, il n'est pas nécessaire que les dossiers soient transférés au tribunal pour que la personne puisse être jugée et condamnée, il peut fixer une amende transactionnelle. Et le fait pour la personne de payer l'amende transactionnelle veut dire que la personne est sanctionnée pour l'acte qu'il a causé et cela peut mettre fin à l'action judiciaire entreprise.
L'amende transactionnelle peut être estimée à combien à peu près?
Bon, ça dépend des circonstances, il n'y a pas un montant fixé, ça dépend de la peine encourue, des faits prévus et tout ça, et parfois même de la peine, de l'amende que prévoit la loi. Donc cela s'apprécie au cas par cas.
Oui, alors M. Pignoquet, ceux qui viennent vous saluer par après, hein, ceux que vous avez arrêtés, certainement qu'ils ont payé une amende transactionnelle, hein, j'imagine.
Oui, ça peut être cela, mais moi, mon souci, madame, est celui-ci. Mon souci, c'est quoi? C'est renforcer la loi. Parce que vous voyez cette loi-là, sur le champ vrai, de 1903. Ça date du temps colonial. C'est dépassé. Hein, de 15 jours à 12 mois, une année, c'est vraiment c'est dépassé. Mmh. Mais une fois la loi renforcée, hein, la peine va jusqu'à 20 ans, avec confiscation de tous les biens, je crois qu'il y aura de l'ordre. Parce que, très souvent, quand on interroge quelqu'un, dit non, monsieur le président, si je continue à vendre le chanvre parce que c'est un commerce qui paye bien, je préfère aller faire une année en prison, je reviens, mais je vais reprendre. Alors, le jour où il y aura, par exemple, la peine qui va jusqu'à 25 ans ou 20 ans, et puis confiscation de tous les biens, je crois qu'un homme comme ça ne va pas tenir le même.
Oui, Monsieur Pignoquet, nous rappelons que vous êtes le président de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Je crois que par rapport à cette question, il revient peut-être à vous de faire une proposition de loi au niveau du Parlement pour que
le Parlement qui est compétent, mais ce que nous pouvons faire, c'est de transmettre les documents. Parce que vous savez que la République démocratique du Congo est parmi les pays maintenant qui sont en ordre en rapport avec les conventions des Nations Unies en matière de drogue. Nous avons signé et ratifié la convention de 1961 sur le stupéfiant, la convention de 1971 sur le psychotrope, la convention de 1988 sur le stupéfiant et le psychotrope, et dernièrement, nous avons adopté la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée. Donc le pays est en ordre, mais il faut maintenant actualiser la loi au niveau national. Je crois que nous serons d'accord à qui de droit et puis avec la commission de la réforme congolaise, nous allons transmettre le dossier pour qu'ils puissent voir comment ils peuvent renforcer la loi au niveau national.
Oui.
Parce que la meilleure solution, c'est renforcer la loi.
Oui, c'est la
si la loi n'est pas renforcée, c'est très difficile.
Et oui, et puis votre travail, finalement, on a l'impression que vous ne faites pas grand-chose, hein, maître, M. Pignemonquet. Il y a d'ailleurs des réactions qui nous arrivent à ce sujet.
Madame, je crois qu'il n'y a aucun service répressif. Ce n'est pas pour me vanter. Il n'y a aucun service répressif qui arrête, comme moi, avec les statistiques que je vous ai données.
Oui.
C'est le seul service, au moins, qui est compétent, qui arrête, au moins. Il n'y a pas un service qui peut concurrencer ça.
Oui, M. Pignemonquet, nous avons quelques réactions des auditeurs qui ont réagi par rapport à ce que vous dites. Il y a par exemple la réaction des Kazadis à Kinshasa. Le sombre se consomme dans le train urbain à Kinshasa. Comment la commission antidrogue ne combat pas cette pratique? Les hommes en uniforme sont aussi concernés et ils ne peuvent pas facilement arrêter les malfrats.
Merci. Nous avions toujours demandé à la population de dénoncer. De dénoncer les endroits où le consomme change.
Oui, mais ça, c'est connu,
M.
Oui.
Ce n'est pas connu, peut-être c'est vous qui connaissez.
Non, mais on en parle. Les médias en parlent.
Alors, deuxième chose. Il faut dénoncer. Et en plus de cela, nous n'avons pas besoin, quand vous dénoncez, de votre nom ou de mettre votre adresse. Vous dénoncez dans l'anonymat pour que l'équipe de la répression puisse descendre là-bas.
Alors,
en ce qui concerne les hommes en uniforme, le comité a tout un colonel de la justice militaire et ses collaborateurs uniquement pour les gens en uniforme qui consomment de la drogue. Donc, il ne suffit pas de dire seulement que les hommes en uniforme. Il faut dénoncer, dire voilà, tel endroit, il y a des hommes en uniforme qui fuient. Et à ce moment-là, la justice descend sur le peuple.
Alors, M. Pili, maintenant que vous avez l'information, vous comptez organiser une descente pour vérifier.
C'est-à-dire, maintenant que tout le monde a suivi à la radio, peut-être qu'ils vont plus monter sur le terrain ces derniers jours, mais avec le temps, nous ferons une surprise, on va s'organiser pour neutraliser tous ces fumeurs-là qui viennent par le train. Je les remercie pour l'information.
Et nous, on prend le suivi pour voir si réellement vous allez descendre sur le terrain, hein, M. Pignemonquet. On va vous accompagner. Alors, on va s'arrêter là, aujourd'hui, avec vous, en tant que président de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Pignemonquet, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Et bon courage.
Et je vous remercie également parce qu'au moins tout le monde a suivi ce que nous faisons. Et si vous pouvez multiplier des émissions comme ça, ça sera bien pour la population qui va suivre. Et merci beaucoup pour m'avoir invité.
À la prochaine.
Merci.
Maître Dominique Amandou de l'ONG Avocats sans frontières, on va également s'arrêter là. Aujourd'hui, juste une précision, maître. Est-ce que vous pensez que réellement, comme l'a proposé M. Pignemonquet, est-ce qu'on pourrait renforcer cette loi sur la drogue, la loi qui date de 1903, hein, depuis l'époque coloniale?
Effectivement, Nicole, vous vous rendez compte que la loi est très vieille, elle peut paraître aujourd'hui dépassée. Il est important que la réforme soit faite, que l'on puisse, par exemple, donner des peines beaucoup plus fortes et être beaucoup plus strict sur les questions des principes pour permettre à ce que l'on puisse lutter réellement contre l'exploitation, la vente des chanvres. Je pense que cette objection est pertinente. On doit aller dans ce sens-là pour prendre des mesures beaucoup plus dures et rendre réelle la lutte contre l'exploitation et l'usage des chanvres. Et je pense qu'il est bon pour la Commission d'impliquer dans la prévention et dans la lutte les autorités territoriales et les responsables des entités locales, parce qu'au terme de la loi, ils sont responsabilisés. Et même lorsqu'il y a des condamnations, ces personnes ou ces autorités sont tenues de payer ces condamnations en même temps que les personnes condamnées. Et là, c'est pour impliquer les impliquer davantage et démontrer jusqu'à quel niveau va leur responsabilité. Nous pensons qu'au-delà de la commission, cette responsabilité incombe aussi et surtout aux entités territoriales et aux responsables des entités territoriales.
Maître Dominique Amandou, merci d'avoir été des nôtres en tant que responsable au sein de l'ONG Avocats sans frontières. Et à la prochaine.
Merci.